La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Vous en avez assez des punaises de lit. Elisabeth, il existe une solution écologique contre ces petites bêtes sans les tuer.
Et oui, on a une solution qui est née à Marseille, dans une société marseillaise. Pronem, c'est pas tout à fait par hasard que ça se passe à Marseille, quand on sait que plusieurs écoles marseillaises, ainsi qu'un service de l'hôpital de la Timone, ont récemment dû fermer pour désinsectisation liée à des punaises de lit. Cette solution, c'est un produit sans pesticides, à base d'huile d'eucalyptus citriodora, vous allez tout nous expliquer puisque la fondatrice est avec nous, encapsulée dans des microbilles. Un produit 100% efficace avec une pulvérisation tous les 15 jours et non toxique, hein, complètement. Bonjour Nathalie Agege.
Bonjour Elisabeth, vous avez tout dit, me semble-t-il.
Non, mais vous allez nous expliquer. Vous êtes la fondatrice justement de Pronem. Alors Pronem, ça existe depuis 15 ans, mais à l'origine, ce n'était pas du tout destiné à combattre des punaises de lit.
Pas du tout.
Et vous êtes venue vers ce marché.
Alors,
petit à
Pronem
petit.
Alors Pronem est né d'une demande des textiliens français. Ils recherchaient dans les années 2000, la naissance de la couette, des traitements anti-acariens pour traiter les tissus en milieu industriel. 30% de la population est allergique aux acariens de la poussière. Il y a donc une vraie demande marché. Et donc, on a inventé un des premiers textiles intelligents avec des huiles végétales qu'on va mettre, comme vous avez dit, dans une microcapsule. Quand les gens utilisent les couettes, les oreillers, les microcapsules se cassent. L'actif végétal arrive à la surface du tissu et tue les acariens de la poussière. Et donc, ça a été la première histoire Pronem. Donc, développement durable avant que le développement durable existe.
Puis, vous en êtes venue aux punaises de lit. Ça s'est passé quand ?
Alors, ça s'est passé en réalité en 2012. Mm-hmm. J'ai été invitée par la société Simons, leader sur le marché américain des matelas.
Des matelas,
pour
literie.
Travailler sur la problématique des punaises de lit aux États-Unis, puisqu'il y a eu une vraie problématique, notamment en Californie, New York, dans les grands hôtels.
Dans les milieux hôteliers, tout à fait.
Et donc, la possibilité, en fait, le gouvernement américain demandait d'utiliser des solutions naturelles, durables, plutôt que des produits chimiques, puisqu'en fait, ce sont les produits chimiques qui ont engendré les résistances des punaises de lit contre tous les pesticides et la problématique qu'on a aujourd'hui à Marseille, mais en France.
Donc, ils sont allés chercher des Français, une Française, vous les avez conseillés et petit à petit, vous avez changé, modifié votre activité pour sortir ce produit sans pesticides.
Alors, aujourd'hui, les traitements anti-punaises de lit font partie de la gamme de produits qu'on développe chez Pronem. En fait, la vraie problématique, c'est qu'on a suivi les punaises de lit, on a informé les distributeurs, les hypermarchés, chez nos clients qui fabriquent des couettes et des oreillers en leur disant « Attention, les punaises de lit vont arriver en France et ça va être un vrai drame. La punaise de lit est un produit, c'est un insecte qui est nomade, qui bouge, qui va dans les avions, qui voyage dans nos valises. Ça n'attaque pas aujourd'hui, on parle beaucoup des logements sociaux, mais ça concerne tout le monde aujourd'hui. C'est pas un problème d'hygiène, c'est vraiment un problème de nomade, exactement, des insectes, comme on peut avoir une épidémie. Et donc on avait prévenu nos clients en disant « Attention, il va y avoir un problème de punaises de lit. » Et les gens n'ont pas été sensibles à cette problématique et on est arrivé en prêt à tous ces problèmes d'infestation. Alors, qu'il y a aujourd'hui dans les collectivités, les écoles, les hôpitaux, les domiciles.
Et le produit alors ? Donc c'est une petite capsule, c'est un pulvérisateur ?
Alors aujourd'hui c'est un pulvérisateur, on a décidé finalement de mettre sur le marché une bouteille pulvérisateur et en fait on a une technologie qui a été inventée donc depuis 15 ans pour laquelle on a un brevet qui est la micro-encapsulation et dans cette microbille qui mesure 4-5 microns on va mettre, donc un cheveu c'est 60 microns, donc c'est pas quelque chose qu'on va voir à l'œil nu. Et dans cette microbille, on va mettre un actif d'origine végétale qui est l'eucalyptus citriodora, qui est très connu en tant qu'anti-moustique. Mais là en fait, on va lui donner une durée de vie qui est de plus de 15 jours, plus d'un mois. Et donc on va pulvériser sur les matelas et on va éliminer les punaises de lit et on va minimiser surtout les risques de piqûres sur les matelas.
Le coach Laurent Choin. Ouais,
vrai problème, parce que moi j'ai une de mes collaboratrices qui non seulement vient de déménager à cause de ça et de refuser un nouvel appartement à cause de ça. Moi, une question, c'est que je me souviens que les produits qu'il y avait avant mettaient du temps à agir. C'est-à-dire que vous deviez les pulvériser, après il faut attendre 24 heures sans toucher, sinon vous êtes mort en même temps que les acariens. Là, en l'occurrence, dans votre cas, par exemple, on pulvérise et on peut tout de suite dormir ?
Alors, au bout de 15 minutes, on a 100% d'élimination des punaises de lit sur le matelas, ça veut dire qu'elles vont fuir le matelas.
On les éloigne ?
On les éloigne. On n'est pas une société de désinfestation. J'entends. Il faut savoir que tous les produits qui tuent les punaises de lit sont des produits toxiques pour la santé et souvent demandent aux gens de quitter leur domicile pendant 24 voire 48 heures. Donc c'est vraiment une vraie problématique aussi de santé. Nous, on empêche les punaises de lit de venir squatter les matelas et de piquer les gens qui dorment tranquillement.
Donc on peut aussi l'utiliser en préventive, c'est-à-dire pulvériser le matelas
ou les valises
pour faire en sorte et les valises. Oui.
Et les valises. L'idée aujourd'hui, c'est comme la problématique des poux, des moustiques, c'est qu'aujourd'hui il faut faire de la prévention. Donc quand on voyage, il faut pulvériser sa valise. Quand on échange, quand on achète des vêtements d'occasion, il faut les laver, il faut pulvériser dessus. Quand on achète des meubles, il faut pulvériser sur ces meubles. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique de prévention quand on voyage et quand on échange des vêtements et les genres de ce type d'objets.
On les achète où ? On vous trouve où ?
Alors, on nous trouve sur Amazon, on nous trouve sur notre site pronim.com. On nous trouve sur Cdiscount et chez beaucoup de distributeurs.
Partout. Et ça coûte cher ?
Et ça coûte 29,90 € le litre.
8 ans de recherche et développement pour en arriver à ça. 8
ans de recherche et développement pour apporter une solution qui est inoffensive pour l'homme. Ça veut dire que si vous le pulvérisez sur vos vêtements, c'est hypoallergénique.
Je peux sortir avec, je ne crains rien, je ne vais pas faire de réaction.
Exactement.
Et Pronim, c'est avec 2 E.
Oui,
P-R-O-N-E-M.
Exactement.
Et je tiens à signaler que vous êtes docteur en biochimie, donc vous savez de quoi vous parlez.
Alors, je suis docteur en biochimie et surtout, notre technologie est la seule technologie à avoir une autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne. Et nous sommes cette seule société en Europe à avoir ce certificat.
Bravo.
C'est la solution. Merci d'être venu nous la présenter parce que c'est très utile compte tenu effectivement du fléau que représentent les punaises de lit. On reste ensemble dans un instant. On se retrouve évidemment, Céline.
Il est midi 57.
Europe 1. Car la France bouge continue et nous allons parler alcool. Alcool étranger, oui, mais revisité par des Français. À tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on aime donner la parole à ceux qui font bouger le pays par leurs initiatives, leurs idées, leurs projets. Vous allez voir qu'il y a un secteur qui casse les codes, c'est celui des alcools. Et quand les Français mettent leur nez dedans, eh bien, ça dépote. Bonjour Grégoire Boeuf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des Larmes du Levant. Vous vous êtes lancé dans le saké, le plus japonais des alcools, et votre coup de cœur date justement d'un voyage là-bas, je crois qu'on est en 2013.
On est effectivement en 2013 et je pars au Japon en famille et on découvre avec mon père le saké à cette occasion-là. On était des grands amateurs de vin et on a découvert cet alcool très atypique et très spécifique au Japon. Et on a amplement dégusté sur place, effectivement. Ouais.
Alors, on va tordre tout de suite le cou à une idée reçue, parce qu'on a tous l'impression qu'on a déjà bu du saké quand on va dans un restaurant et qu'on nous donne à la fin du repas un tout petit gobelet avec un petit peu de saké, soi-disant, dedans. Non, le saké, c'est pas vraiment ça.
Le saké japonais, ce n'est effectivement pas ça du tout. C'est une boisson fermentée à base de riz, donc c'est des variétés spécifiques et c'est un alcool très délicat que les Japonais consomment pendant le repas. En aucun cas, ni en digestif après, quoi qu'on fait bien comme on veut. Mais non, c'est un alcool qui est censé accompagner la nourriture et qui se marie d'ailleurs très bien avec d'autres nourritures que la nourriture japonaise et en l'occurrence la nourriture française.
Donc à votre retour de ce voyage au Japon en 2013, vous rencontrez un importateur alors, qui avait manifestement déjà eu l'idée lui de faire du saké, mais il n'avait eu ni le temps ni les moyens. Vous dites, on va peut-être se lancer ensemble, finalement.
C'est exactement ça. On s'est rencontrés par un hasard et des amis communs. On a fait une dégustation de saké qu'ils importaient effectivement à la maison. Et à la fin de cette soirée copieusement arrosée au saké, on a lancé ensemble cette idée qu'ils avaient déjà évoquée au préalable. Et on s'est saisis, nous, du projet. Et on a maintenant, depuis, mis à bien ce projet.
Oui, parce que la production a démarré depuis 2017, c'est ça ?
C'est exact, depuis 2017, ouais. On attaque la quatrième année. Là.
Entre-temps, vous êtes parti vous former au Japon pour apprendre les techniques de fabrication ?
Je suis effectivement parti un peu moins d'un an au Japon pour apprendre, pour visualiser les process de fabrication, sourcer les équipements, les machines, les fournisseurs, trouver du personnel apte à me suivre et à venir travailler avec moi. Et j'ai passé aussi un petit peu de temps à Tokyo pour apprendre le service et étudier le rapport qu'avaient les clients japonais avec cet alcool qui est assez particulier.
Il y a tout un art effectivement pour servir le saké.
C'est tout un art, c'est à la fois une boisson qui consomme de manière festive, c'est aussi un marqueur sociétal, c'est un marqueur religieux. Ils ont le même rapport qu'on a quasiment avec le vin, c'est-à-dire que c'est plus qu'une boisson. Et effectivement, il y a tout un folklore et toute une science derrière à étudier.
Vous avez dit tout à l'heure que vous sourciez vos fournisseurs là-bas, c'est ça ? C'est que on pourrait pas, par exemple, imaginer demain faire un saké à base de riz de Camargue, puisque nous en avons ?
Alors, on pourrait tout à fait imaginer le faire. Il y a déjà une brasserie japonaise qui s'en occupe. Simplement, nous, on était un peu précurseurs dans la matière. Je voulais que les 5 premières années, on travaille avec des matériaux dont on connaissait les techniques de fabrication. Et effectivement, le futur et l'avenir, les projets sont effectivement de travailler avec des riz qui soient sourcés 100% locaux, qui soient en bio. Mais ça prend un petit peu de temps parce qu'on part vraiment de rien. Donc,
Et puis, il y a une spécificité. Il y a des riz à saké.
Oui, il y a à peu près 140 souches de riz sakéifère, donc avec lesquelles on peut fabriquer du saké. On ne fait pas ça avec n'importe quel type de riz. Donc, il faut effectivement les sourcer. Ils ont tous des propriétés organoleptiques différentes. Et on travaille certaines variétés plus que d'autres en fonction des spécificités qu'on veut obtenir.
Elisabeth, le saké revient en France. Ça marche bien ?
Alors, la France est désormais le deuxième pays qui importe le plus de saké en Europe. Nous sommes le 11e pays au niveau mondial. Mais en France, ça reste encore un petit peu méconnu, hein, tout de même, pour une grande partie des Français. 43% d'entre nous considèrent que c'est un alcool qui est fort. Et pourtant, vous venez de le dire, hein, même là-bas, ça s'apparente davantage au vin, hein, même en termes de pourcentage d'alcool. On est entre 13 et 15
12 et 18, de manière générale.
Bon, on peut commencer à... Ça ressemble un petit peu au vin. Enfin, ça s'apparente, je veux dire, au vin. Et donc, voilà, ça marche de plus en plus, même si ça suscite la curiosité.
Notre coach, que dit-il du saké ?
Alors, d'abord, konnichiwa, Grégoire San.
Konnichiwa.
J'entends derrière ce que vous dites qu'il y a une culture, il y a des choses comme ça. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec des prescripteurs ou des personnes qui pourraient pousser l'usage du saké, par exemple des grands restaurants ?
Alors, c'est principalement vers ça qu'on se tourne, pas vraiment vers spécifiquement que les grands restaurants, bien qu'on ait pas mal de 3 étoiles qui commencent à nous faire confiance. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est un produit qui a besoin d'être enseigné, entre guillemets, et il y a besoin de conseils avec, pour casser cette fausse image, justement, et pour que les gens y viennent. On travaille beaucoup avec des restaurateurs qui sont susceptibles de faire des accords et des suggestions, en fait. C'est encore un peu trop tôt, même si le marché, effectivement, est en plein essor, pour qu'on puisse se permettre d'être servi de manière spontanée, et les gens ne commanderont pas spontanément un saké. Mais en passant par des prescripteurs et donc des restaurants qui ont le temps et qui ont la capacité de proposer des accords en suggestion et qui ont une clientèle qui travaille en confiance, effectivement, c'est vers ça qu'on se tourne, car nous, on a vraiment besoin d'éduquer avant de pouvoir
vous
vendre.
Avez
il faut qu'on
un
explique.
Un plat avec du saké, par exemple.
Il y a une multitude de plats. Je ne peux pas faire une liste exhaustive, d'autant qu'avec la gastronomie française, tout reste à peu près à faire. Mais j'aime beaucoup travailler des accords avec les fromages, avec des charcuteries, ce qui permet de faire des accords un peu atypiques et de casser le carcan très japonisant de la chose. En fait, si on veut survivre sur le long terme, c'est vers ça qu'il faut se tourner, je pense.
Vous en avez élaboré 5 différents, c'est ça, de saké ?
On a une gamme de 5 sakés auxquels on vient ponctuellement ajouter des séries limitées, comme là, celui que vous avez, par exemple, en plateau, qui s'appelle Tenshin, qui est le saké légèrement troublé,
oui.
Et une édition limitée de 400 bouteilles.
Le saké, ça se fait d'une manière particulière. Si je schématise, on a le riz qui cuit à la vapeur, on le saupoudre d'une enzyme, c'est ça ?
Exactement.
Ça va faire ressortir le glucose.
Ça s'appelle une double fermentation parallèle. On commence par transformer de l'amidon en sucre et on transforme ensuite ce sucre en alcool. C'est un process de fermentation qui est assez particulier.
Aujourd'hui, vous dites éduquer les Français, éduquer finalement le palais des Français. C'est quelque chose qui s'apprend, la dégustation du saké ?
C'est quelque chose qui s'apprend si on veut le faire de manière professionnelle. Après,
comme
on déguste un vin. Après, je pense que c'est le cas avec beaucoup d'alcool et beaucoup de nourriture. On souffre beaucoup d'avoir peur de faire des mauvais accords, de passer pour un idiot. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup trop de notes, beaucoup trop de concours. Je pense qu'il faut que les gens s'approprient le produit librement, ça vaut pour le saké comme pour le reste, et que chacun se fasse sa propre opinion et ne soit pas forcément bloqué.
Le coach, Laurent Chouin.
On voit à l'image qu'il y a des années sur les bouteilles. Il y a des millésimes de
saké ? Ce n'est pas vraiment des millésimes. Japonais parle de vintage. C'est chez eux noté en fonction des années de l'empereur. Donc là, en l'occurrence, cette année, on produit le saké R1 de l'année Reiwa. Nous, en France, on utilise le calendrier grégorien. Donc on a mis les années qui correspondent chez nous. C'est plus des indicateurs de vieillissement, en fait. C'est pas un millésime, puisque c'est pas un vin. Donc, il n'y a pas de millésime solaire pour le saké, de millésime sec ou de millésime autre. C'est un indicateur pour l'année de production qui donnera des caractéristiques particulières.
On reste ensemble et on continue à parler alcool aujourd'hui, avec ou sans modération, en tout cas pour écouter l'émission.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si je vous dis que dans la région de Cognac, on produit aussi de la vodka, reste avec nous, vous allez la découvrir. On parle Toute cet après-midi dans la France bouge de ces alcools étrangers revisités par des Français comme le saké, la vodka ou encore le gin. Êtes-vous consommateur de ces alcools? Que pensez-vous de ces revisites? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921 Raphaël.
La vodka, Céline, n'est pas née chez nous et pourtant aujourd'hui, il s'en produit de plus en plus en France. Bonjour Cyrielle Rigaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La vôtre est particulière, Madame Vodka Bio. Vous vous êtes lancée en 2018. Et alors, si j'ai parlé de Cognac tout à l'heure et de sa région, c'est parce que je crois qu'on l'appelle la Spirit Valley.
Tout à fait.
Il y a là-bas tout ce qu'il faut, tous les outils pour pouvoir créer.
Exactement. Effectivement, c'est un bassin assez propice à la création de spiritueux. Et il est beaucoup plus simple, finalement, de pouvoir se lancer à Cognac, puisqu'on a les verriers, on a les distilleries. On a des distilleries, en plus, des alambics vraiment d'exception. On a les bouchonniers, on a vraiment tous les imprimeurs. Tout est fait et tout est organisé, finalement, pour la création de spiritueux.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous, votre mari est dans les spiritueux et il vous fait découvrir l'univers et du coup, vous tombez dedans également?
Oui, ça fait à peu près 20 ans qu'il est dans cet univers. Je le découvre au travers ses yeux, mais également au travers tout son entourage, hein, et notre entourage à nous deux, hein, de nos amis et autres. Et puis, ça attise la curiosité, on apprend à déguster, on commence à vraiment apprécier, à voir les différences entre les spiritueux. Et voilà, et après, un changement de vie nous amène à Cognac, le concernant, et me fait quitter mon job que j'adorais avant, hein, qui était dans la banque, et pour enfin peut-être me lancer dans cette nouvelle aventure.
Mais dites-moi, le marché est saturé, pas saturé sur...
La vodka, il y en a énormément. Il y a à peu près 6000 marques au monde de vodka, donc il est vrai qu'il n'est pas simple de se faire sa place. Après, moi, j'ai choisi vraiment de me lancer sur des spiritueux de valeur, des spiritueux premium, qui avaient du sens. Enfin, c'était vraiment l'objectif que j'avais, moi.
Donc, de qualité et bio.
Alors, bio, mais pas que, local aussi. L'idée, c'est vraiment pour moi de trouver ma ressource localement, de mettre en avant aussi le savoir-faire local. J'élargis au maximum quand je peux pas forcément trouver ce que je peux autour de moi. Mais l'idée est de favoriser les circuits courts, ainsi de limiter pour moi l'empreinte carbone, d'être le plus écologique possible et aussi de favoriser le commerce équitable.
Du coup, vous avez commencé à travailler avec une céréale qu'on connaît mal,
oui.
Mais on ne sait pas qu'on en a forcément en France.
Tout à fait.
Parce qu'on pense qu'elle vient de Bolivie. Mm-hmm. C'est le quinoa.
Tout à fait.
Or, il y en a en France.
Alors, on cultive du quinoa en France, effectivement. J'en ai trouvé, les terres sont dans la vallée de la Loire. Autrement, c'est une petite coopérative avec qui je travaille, parce que ça convient totalement aussi à mes valeurs, dans le respect de la rémunération des agriculteurs et de leur travail. Et ils travaillent effectivement, elle s'appelle Elisa d'ailleurs, et ils travaillent des céréales qui sont donc forcément françaises, hein, mais sans allergènes, sans gluten et issues de l'agriculture biologique.
Justement, vous vous êtes lancé sur le marché avec cette vodka particulière depuis mars 2019. Qu'est-ce qui fait sa spécificité au goût?
Alors déjà, je crois que vous ne trouverez jamais une deuxième vodka identique. C'est la seule vodka au monde, d'ailleurs, à utiliser du quinoa français bio dans sa conception. Et puis au-delà de ça, déjà, on va utiliser un process un peu différent des autres types de vodka. En général, la vodka est distillée dans des alambics à colonnes. Hein. Tout le monde le fait parce qu'on doit monter à un degré qui est donc de 96,4. Seul cet alambic peut le faire. Et en général, tout le monde va ensuite réduire ou filtrer et réduire et mettre en bouteille. Moi, à ce moment-là, je réintègre du quinoa. Et je fais une dernière distillation en alambic charentais, donc le fameux alambic que l'on utilise normalement pour le cognac, qui permet justement d'apporter énormément d'atouts à cette Madame Vodka et de lui donner naturellement des arômes de quinoa.
Elisabeth, je disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de vodka sur le marché français. C'est vrai, il y en a de plus en plus.
Oui, il y en a. Alors vous l'avez dit, hein, vous êtes la seule à fabriquer avec du quinoa fabriqué en France, hein, français, produit en France. Il y a vodka fer, hein, la vodka dite équitable, qui est une vodka à partir de quinoa, un quinoa issu de coopératives de plus de 1200 agriculteurs dans les Andes boliviennes. C'est une start-up, hein, qui a élaboré cette vodka à partir de quinoa. On y trouve de l'alcool de maïs, Là aussi, elle est certifiée bio, vegan, sans gluten et elle est en vente chez Monoprix d'ailleurs depuis l'été dernier. Vous avez, vous non ?
Moi, je suis bien certifiée, effectivement, bio. Ouais. Mais voilà, on n'a pas tous la certification, effectivement.
Et vous avez aussi Tigre au cassis. Là, c'est une vodka fabriquée à partir du blé de Champagne et de l'eau des Charentes. Ou encore Guillotine, vodka française. Là, les vendanges sont effectuées à la main dans la plus pure tradition champenoise.
Oui, que connaît bien notre ami Rémois à côté de vous, puisque c'est de ce côté-là que ça se passe. Que dit notre coach? Mais
d'ailleurs, c'est frappant de voir que c'est dans des régions de tradition viticole autre que vous êtes installé. Mais je comprends, grâce à votre alambic, la logique qu'il y a derrière. Par contre, il y a quelque chose qui me frappe. Vos marchés de débouchés vont être essentiellement les pays de l'Est. Les États-Unis, je crois, l'Europe du Nord, c'est-à-dire des gens qui naturellement consomment déjà beaucoup de vodka. Donc il n'y a pas trop l'ambition d'aller conquérir des nouveaux marchés, quoi. Vous allez aller dans la concurrence frontale finalement avec ce produit.
Alors j'ai la chance de déjà sur le marché français aujourd'hui d'être distribué par un beau groupe familial qui sont donc les whiskies du monde, qui correspond à mes valeurs. Et l'idée c'est aussi d'aller conquérir effectivement d'autres pays, donc l'export. Madame Vodka est déjà présente en Pologne par exemple. Alors c'est assez étonnant parce que c'est vraiment le bassin de la vodka avec la Russie. Je travaille également actuellement d'autres pays en exportation.
Et là,
donc,
vous vendez Madame Vodka, c'est-à-dire vous vendez le côté français un peu.
Madame Vodka, voilà. Après, effectivement, le fait d'être bio, d'utiliser du quinoa, ça résonne pas forcément dans tous les pays, mais...
Chez eux en Pologne, ça résonne par exemple, le bio et le quinoa ?
Non, c'est plus le fait d'avoir une vodka française distillée dans un alambic charentais qui va être intéressant. Mais chaque pays, finalement, va avoir son approche.
Va trouver son intérêt dans votre
produit. Donc voilà, et l'idée c'était vraiment aussi d'être différenciant.
Comme disait Lino, une boisson d'homme ou...
Eh bien écoutez, j'arrive à réconcilier finalement un public assez large qui était assez fâché aussi avec la vodka, les mauvais souvenirs de jeunesse majeure évidemment, mais justement elle est assez ronde et assez onctueuse. On peut même douter du fait qu'elle soit à 40 degrés, mais elle l'est bien. Et il n'y a aucun ajout, même si on peut penser qu'elle est très sucrée et elle se boit avec modération, évidemment. Mais
toujours.
Mais effectivement, c'est assez simple. Donc finalement, j'arrive à séduire autant des femmes que des hommes.
On reste ensemble et on continue à parler spiritueux aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et on va continuer notre tour de France des alcools étrangers, direction Avignon avec Holly Jean. A tout de suite.
On parle d'alcool dans La France bouge, mais vous commencez à nous connaître. On parle des alcools made in France, alcool revisité par nos invités. Si vous souhaitez réagir, nous parler d'une marque qui revisite également un alcool ou poser une question à nos invités, appelez-nous au 39 21, c'est 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous envoyer un message via Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
Et vous allez voir que derrière ces alcools revisités, il y a aussi de belles histoires, des histoires de reprises réussies notamment. C'est le cas de celle qui arrive, la maison Manguin à Avignon. Bonjour Emmanuel Anquier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez repris cette distillerie. Alors, après avoir travaillé pendant 20 ans pour des groupes alimentaires, vous vouliez tout simplement être votre propre patron. Comment est-ce que vous tombez en amour avec cette maison-là ?
Bon, c'est un coup de foudre. J'ai étudié plusieurs dossiers de reprise assez rationnellement. Et puis, en fait, en arrivant sur cette île de la Barthelasse en plein mois de novembre, il y a eu un coup de foudre pour le lieu, pour l'histoire et pour le savoir-faire de cette distillerie.
Vous aviez déjà travaillé dans la région avignonnaise ?
Oui, absolument. J'avais travaillé 8 ans dans le groupe Ducrot, qui se décarcasse. Et là, je me décarcasse pour les alcools de la maison Manguin.
Oui, parce que Manguin existe depuis les années 40.
Exactement. Le fondateur Claude Manguin avait planté des poiriers, des pêchers sur cette île de la Barthelasse pour son terroir très favorable, de sable, de limon. C'est l'île fluviale la plus grande d'Europe. Qui fait 700 hectares. Et puis ensuite, l'histoire de Manguin a été celle de la poire Manguin, comme on l'appelle, emprisonnée dans son écrin de var, accrochée aux branches des poiriers et puis surtout distillée.
Donc votre idée, quand vous récupérez cette maison-là, c'est de la réveiller ?
Exactement. On se dit d'ailleurs qu'on va réveiller une belle endormie.
Une belle endormie que vous avez réveillée, alors en continuant effectivement les produits qui existaient déjà, qui avaient été un peu oubliés, en les remettant au goût du jour. Et puis vous vous êtes dit, en regardant autour de vous, finalement, ce que j'ai autour de moi, ce sont des oliviers. C'est quand même en Provence qu'on trouve le plus facilement. Donc pourquoi ne pas faire un alcool à base d'olives ?
Exactement. Alors en fait, c'est plus l'idée de mon épouse, puisque Béatrice est complètement partie prenante dans cette aventure. Elle est même devenue le nez de la maison. Et c'est elle qui a eu du nez, c'est le cas de le dire, pour se pencher sur la distillation d'olives. Et il y a 5 ans, nous avons commencé par faire un produit qui s'appelle Olistil et qui est de la distillation d'olives pure.
Olistil qui est avec nous, hein, si vous nous suivez sur Europe1.fr. C'est vrai que quand on débouche et qu'on sent, la première chose qui frappe, c'est cette odeur d'olive qui vient tout de suite dans les narines.
Oui, c'est la quintessence de l'olive. Absolument.
C'est la quintessence de l'olive et ça n'est pas pour autant de l'huile d'olive.
Ah non, 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 il y a bien une distillation en alambic charentais, hein. comme est équipé également Cyrielle. Et en fait, quelques années plus tard, l'idée aussi de Béatrice a été de joindre, on va dire, ce travail de distillation d'olive à une distillation d'un gin. Et l'alliance des deux s'avère tout à fait réussie.
Alors, justement, comment est-ce qu'on allie les deux? C'est un gin classique, un secret de fabrication que vous allez évidemment nous livrer sur Europe 1.
Évidemment, non, je ne vais pas vous le livrer, mais c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois un gin classique fait de 6 aromates assez classiques, parce que ce que nous souhaitions, c'était justement un gin assez neutre pour laisser la part belle à l'olive. Et donc, il y a une redistillation de ce gin avec des olives.
Que dit notre coach, Laurent Chard?
Emmanuel, d'abord, c'est formidable. Je ne suis pas du tout consommateur d'alcool, mais là, je découvre des choses aujourd'hui. Mais là, en particulier, effectivement, en le sentant, on a senti au-delà de ça un velouté. Maintenant, moi, ma question serait plus justement comment on consomme ça. J'ai lu sur vous que, par exemple, vous recommandiez à des chefs de l'utiliser dans des recettes. Donc, en fait, il y a l'idée qu'on peut le consommer brut. Mais surtout, vous conseillez de l'associer finalement, c'est ça que je comprends.
Alors, il y a deux produits. Il y a Olistil, qui est effectivement plus un ingrédient soit de gastronomie. Certains grands chefs cuisinent déjà avec du homard, par flambage aussi sur des viandes, par accord aussi sur des tomes de chèvre, sur des huîtres, puisqu'il y a une note saline assez marquée liée à l'olive. Et puis, il y a la partie mixologie. Puisque c'est une tendance forte en France, que le cocktail. Et là, tant sur Olistil que sur Oligin, il se trouve, et c'est un peu le beau hasard de notre aventure, que l'alliance du gin et de l'olive est assez naturelle en cocktail, avec notamment un cocktail phare qui s'appelle le Dry Martini.
Oui.
Vermouth, James Bond.
Vermouth voilà. et donc olive.
Gin, hein. Absolument. Et une olive piquée.
Et une olive piquée, évidemment. Elisabeth, le gin, on peut dire que c'est tendance, très tendance.
Mais,
même.
Surtout que nous, en France, on s'est réveillés quand même un peu tardivement concernant le gin. Mais je peux vous dire qu'on se rattrape. D'après la Fédération française des spiritueux, la consommation du gin tonique, notamment, hein, c'est celui que nous connaissons le plus, dans les cafés, dans les hôtels, dans les restaurants, en France, a augmenté rien qu'en 2017 de 17,6%. Si on revient des années en arrière, dans les années 90, c'était pas évident de parier sur le gin parce qu'il avait pas une très très bonne réputation, on peut le dire, et surtout que la vodka trôner sur toutes les tables, dans toutes les discothèques de l'époque, dans les hôtels, dans les cafés, les restaurants. Donc là, ça revient de plus en plus.
Vous avez trouvé d'autres sortes de jeans?
Alors vous avez par exemple la Maison Ferrand qui a lancé Citadel Jean en 1990 justement. Donc ça a été un des premiers à l'époque où c'était vraiment considéré comme démodé. C'était la vodka qui avait le vent en poupe. Citadel Jean, c'est donc un jean artisanal fabriqué dans le sud de la France. Avec une recette sans sucre ajouté. Vous avez le gin de Barbès, Lord of Barbès. Là, il est fabriqué à Paris, dans le 18e arrondissement.
Il fait même du parfum avec.
Tout à fait. Gin premium, hein, comme ils disent, unique, rare, fabriqué en France. Ou encore Reta Spiritueux, Gin by Reta, qui est un gin distillé qui s'inspire des richesses de la mer. C'est une recette qui utilise les algues fucus récoltées sur l'île de Ré. Et enfin, Jay Wine, au cœur de la Maison Villevert, là c'est un gin de raisin. Ils utilisent de la fleur de vigne et là aussi il est élaboré en France.
Et puis on a Monsieur Gin qui est avec nous à côté de Madame Vodka évidemment. Et je précise puisque vous disiez, on parlait de la Corse tout à l'heure Laurent, il y a le gin Massiccio qui est fabriqué en Corse aussi. Petit clin d'œil du côté de l'île de Beauté. Il est 13h37.
Europe 1.
On reste ensemble et on vous attend. Si vous voulez participer, c'est le moment. 3921 et Twitter. On parle spiritueux aujourd'hui dans La France qui bouge. À tout de suite.
Dans le dossier du jour, cet après-midi, on parle de ces alcools étrangers revisités par des Français. Et vous nous en parlez, Raphaël, avec vos invités. Nous sommes avec nos invités, évidemment. J'étais en train de regarder les messages qui arrivent, figurez-vous, sur Twitter. Grégoire Boeuf, fondateur des Larmes du Levant, Cyrielle Arnold, fondatrice de Madame Vodka, et Emmanuel Anquier, co-dirigeant de la distillerie Maison Manguin qui produit Holy Gin. On a effectivement un message, je vous laisse le lire, Céline. Oui. Un message sur Twitter.
C'est Mike qui nous l'a envoyé, hashtag Europe 1, qui nous dit « Habitant d'Épernay et cœur de champagne, je trouve cela un peu étrange de défendre des recettes non d'alcool et terroir de France et parallèlement reprendre, transformer et vendre des alcools du monde. »
Ah, alors on va répondre évidemment à Mike qui a envie de prendre la parole. Grégoire ?
Ah, sur la pertinence de faire des recettes étrangères en
France. L'un n'empêche pas l'autre ?
Bah, l'un n'empêche absolument pas l'autre. Dans le moment, du moment où on ne tombe pas dans de la simple duplication, pour lequel cas, effectivement, il ne serait pas le grand intérêt de reproduire à l'identique des procédés étrangers et juste les transpositions sur le français, oui, c'est effectivement, là, ce ne serait pas pertinent. Après, je pense qu'on ajoute tous quelque chose, une touche française à nos produits. Après, dans ce cas-là, s'il ne faut pas faire d'alcool étranger en France, il ne faut pas faire de vin. Le vin, c'est né en Géorgie, donc ça bloque quand même beaucoup de choses. C'est les procédés de fabrication, ce n'est pas les AOC qu'on reprend. Hein, donc,
Et puis, il est en terre champenoise, Mike. Hein. On disait, il y a guillotine. Hein. Il est de chez vous.
C'est à côté.
Voilà, donc il y a guillotine. Donc, on fabrique aussi de la vodka.
Oui, et puis d'une façon générale, on est quand même à une époque qui est en train où on se referme beaucoup et où il y a une réciprocité. C'est-à-dire, si on commence à partir là-dessus, la France est un grand exportateur. Donc, ça doit jouer dans les deux sens. Donc, ça a beaucoup de sens, en réalité, cette approche ouverte, je pense.
Ça apporte aussi énormément de diversité dans chaque catégorie
de spiritueux. Bien sûr. Et au-delà du vin, la cuisine, d'ailleurs, bien sûr.
On a un message au 39-21 de Jean-Louis, qui est à Cergy, et qui nous dit « J'ai eu affaire à un représentant de votre maison, justement, Emmanuel. En tant que restaurateur, cette marque est parmi les meilleures en termes d'alcool. » Ça, ça fait plaisir.
Ah oui. Je ne dirais pas que ça ne me surprend pas, mais ça fait quand même très plaisir.
Vous avez une idée de combien de restaurants aujourd'hui utilisent vos produits ?
Alors aujourd'hui, pour très précisément sur Holy Gin, on a 150 restaurateurs et bars, puisque c'est vraiment un produit pour le bar à cocktail, qui utilisent Holy Gin.
Je voulais qu'on revienne un instant justement sur ces reprises. C'est quelque chose de compliqué. Vous avez dû, vous, reprendre une manufacture qui avait été laissée un peu à l'abandon. Vous avez tout refait finalement.
Une maison, oui, qui avait besoin d'être redimensionnée, d'être rénovée, ce que l'on continue à faire. Au prix quand même de beaucoup de travail, hein, depuis 8 ans. Et bien sûr, on a dû acquérir le savoir-faire. Béatrice s'est formée, hein, puisque c'est elle maintenant qui, avec, certes, on est une équipe, hein, on a Véronique et Frédéric qui sont avec nous au quotidien, mais c'est quand même Béatrice qui, sur la sélection au pied de l'alambic, est la distillatrice.
Elisabeth, on en est où finalement dans le marché du spiritueux aujourd'hui ?
Et ben, c'est un marché qui se redessine petit à petit, hein, qui a une consommation assez stable depuis 2012, avec 2,2 litres par an et par personne. Donc donc on consomme pas mal de spiritueux en France. C'est un marché qui représente plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont près de la moitié est générée par une exportation qui a franchi la barre des 4 milliards d'euros en 2017. Une exportation portée par le cognac. Le cognac qui séduit les États-Unis, de plus en plus les Chinois, et la vodka, hein, qui devient locomotive dans les exportations.
Cyrielle, y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est que vous êtes aussi engagée parce que vous reversez 1% à la reforestation.
Oui, en fait, l'idée, c'était vraiment d'être au maximum équitable dans ce que je faisais, de donner un maximum de valeur et pas seulement d'apporter un concept marketing. Et donc, là, le principe, c'est... Enfin, vous avez vu la bouteille qui est une jolie robe blanche, hein, qui a été d'ailleurs dessinée par Éric Prigent, un ami, et sur laquelle j'appose un bouchon en bois. Et le fait d'utiliser du bois, pour moi, était important de m'engager et de donc verser 1% de mon chiffre d'affaires à Reforest Action. Voilà, et j'utilise également du coup des étiquettes sans fibres de papier et sans colle toxique.
Laurent ?
Je regarde Grégoire, mais c'est vrai aussi pour Cyrielle et Emmanuel. C'est des beaux produits. Et c'est-à-dire que... Et alors, il y a autre chose aussi, il y a un beau nom, les Larmes du Levant. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en fait...
C'est très beau.
Ça sort
ouais,
d'où,
c'est
ça
très beau, c'est Merci. Très poétique.
C'est une réflexion commune. En fait, l'idée, c'était on a repris un vocable, donc les larmes, qui était dans un livre de Toshiro Kurda, qui était historiquement la première personne à importer du saké en France, qui explique que le saké est le produit des larmes des levures, en fait. Parce qu'à la fin du process, on refroidit le brassin, il est très froid et il n'y a plus de sucre. Donc les larmes ne peuvent plus manger et peuvent plus, elles ont très froid, donc elles pleurent. Et le levant, c'est une référence au pays du soleil levant, donc au Japon. Ça intrigue beaucoup les Japonais aussi.
Ça intrigue beaucoup les Japonais.
Oui, parce qu'on vend aussi au Japon et la traduction en japonais s'appelle Shorui Shuzo, les intrigue beaucoup. Ouais.
15 000 bouteilles, c'est ça, aujourd'hui?
En production annuelle à peu près, ouais, c'est ça.
Et vous, Cyrielle?
La première production est de 5 200 bouteilles à peu près.
Même question pour vous, Emmanuel.
Sur LinkedIn, on est à 6 000 bouteilles.
6 000 bouteilles.
Et en croissance assez forte.
En croissance, évidemment.
Oui, pour LinkedIn, qui vous en prend le plus? Quel est le profil?
Alors, ce sont les bars à cocktails. Je voudrais d'ailleurs dire deux choses. La première, c'est que nous avons la chance d'être tous les trois invités. On vous en remercie, mais il faut savoir qu'il y a un renouveau des spiritueux français qui est absolument exceptionnel et que des entrepreneurs comme nous, il y en a beaucoup qui font de très très beaux produits comme les nôtres et qu'il y a...
Il y a des salons pour vous retrouver.
Il y a un salon particulièrement... alors il y en a un qui s'appelle France Quintessence et qui a lieu tous les ans au mois de septembre, qui réunit que des distilleries françaises. Et il y en a un prochain, c'est la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que le renouveau du cocktail est extrêmement fort en France, que ce soit dans des bars comme à la maison. Et effectivement, il y a le salon Paris Cocktail Festival auquel nous participerons, qui a lieu le week-end prochain.
Eh bien, on aura l'occasion donc de vous y recroiser. Merci à tous les trois d'être venus
nous parler de
ces spiritueux.
Il est 13h47.
Europe 1.
Elle est née en 1955. La boule au but est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, figurez-vous que c'est au but.
Alors collègues, on a fait cette partie de boule.
Bonjour Romain Sauvignier.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes le directeur général d'au but, la boule au but, toujours dans la même famille d'ailleurs, hein, puisque c'est votre arrière-grand-père je crois, et votre grand-père qui au départ travaillait pour Peugeot sur des modèles de porte-bagages, pour les mobilettes, on appelait ça comme ça à l'époque. Et ils ont eu l'idée de changer un peu leur métier parce qu'ils avaient un peu moins de travail.
Exactement, c'est tout à fait ça. Mon arrière-grand-père était entrepreneur dans la métallurgie et avec ses deux fils, donc mon grand-père et mon grand-oncle. Et petit à petit, ils ont eu la sous-traitance, ils étaient sous-traitants pour la marque Peugeot, pour divers accessoires, mobilettes ou vélos. Et ils se sont retrouvés avec un peu moins d'activité, donc ils sont retournés vers un sport à l'époque, sport et jeu plutôt, qui était la pétanque. Ils ont vu la pétanque se développer depuis 1908 à La Ciotat exactement, jusque dans les années 50-55. Et c'est dans les années 55 qu'ils ont créé la marque La Boule au But pour lancer une nouvelle aventure avec le souhait d'avoir un produit dont ils soient maîtres de A à Z dans la fabrication et dans la distribution.
C'est pas simple hein, parce qu'il y a déjà de la concurrence en face. Il y a notamment JB qui est leur principal concurrent quand ils se lancent. Comment est-ce qu'ils font pour se mettre sur le marché? Ils inventent un produit un peu différent ou ils font un peu la même chose?
Alors, malheureusement, c'était, en termes de technologie, c'était vraiment les deux mêmes process de fabrication.
Oui, deux coques de métal soudées.
Voilà, une boule reste une boule. Il y a des difficultés à avoir une différenciation vraiment physique. Mais il y avait une course en avant sur les innovations, sur la technologie industrielle, qui a fait que dans le même village, à Saint-Monnet-le-Château, dans la Loire, la marque JB et la marque Obut ont fait une sorte de guerre, alors une guerre non, peut-être pas le mot, mais
une concurrence
vraiment pendant assez rude pendant plusieurs années. Et en fait, la marque au but, mon grand-père, mon grand-oncle ont vraiment œuvré pour l'image de marque. Et j'ai une anecdote là-dessus, puisque à un moment donné, la prononciation de la marque La Boule au but, c'était plutôt au but. Il n'y avait pas la prononciation du T. Et c'est à Europe 1, avec Pierre Belmar, lors d'une annonce publicitaire qu'il a nommé la boule au but, OBUT.
Et incroyable.
Du coup, ça a été un petit peu notre slogan par la suite.
C'est grâce à
Europe 1 et Pierre Belmar, voilà.
Bah,
c'était un joli clin d'œil pour Europe 1, avec qui on a souvent eu des publicités avec vous.
Oui, alors justement, la publicité, c'est le truc de votre grand-père.
Hein.
Il s'attaque à la marque. Il veut absolument que la marque s'impose. Il trouve des slogans.
Oui. Il avait toujours souhaité mettre la marque en avant par divers moyens, notamment des salons, des événements, des voyages à l'étranger, où il a vraiment œuvré pour montrer les bons moments de convivialité à la française par la pétanque, et mettre en avant la marque au but, toujours sur la présentation des produits, qui soit la plus belle, le salon, le stand qui soit le plus accueillant possible, et un lien humain avec les joueurs, un lien humain avec tous nos collaborateurs et collaboratrices dans l'entreprise, pour faire en sorte que la marque puisse vraiment être portée le plus haut possible et le plus loin possible.
Ça marche bien, parce qu'en 93, vous rachetez le principal concurrent, JB en l'occurrence.
Oui.
Aujourd'hui, vous et la boule bleue, hein, vous êtes les principaux fournisseurs pour tous ceux qui aiment la pétanque. Alors chez moi, on ne dit pas la pétanque, hein, je suis du sud, mais on dit on joue aux boules.
Oui, tout à fait. On joue aux boules, c'est exactement ça. C'est une partie de boules, de convivialité entre amis, en famille. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit.
Laurent, coach.
Formidable anecdote, et puis retour aux sources donc avec Belmar. Oui. Cette émission d'ailleurs s'inspire de Vous êtes extraordinaire, donc c'est fantastique. Maintenant, moi j'ai un truc qui me frappe, Raphaël. Avez-vous vu qu'il se digitalise?
Oui.
Moi je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que c'est de la balistique, on a bien compris. Maintenant, c'est de la balistique digitale. Expliquez-nous ça, c'est fantastique. Avec un smartphone, on peut tracer les trajectoires, comme au golf. Là, c'est...
Alors, on se digitalise un petit peu pour le côté mesure. Il y a le côté théâtral de la partie de boule, où on va mesurer avec les pieds, on va mesurer avec une brindille. Et on a voulu apporter, par de la digitalisation, justement, de la mesure pour être vraiment sur de la précision. Il y en a qui y croient, d'autres qui y croient moins, et d'autres qui veulent rester sur le traditionnel double mètre pour la mesure. Mais ce côté digital, nous, on en a besoin.
Et ça calcule,
pour,
par exemple, la vitesse de lancer, de l'atterrissage de la boule vers le cochon.
On est principalement sur un outil de mesure.
D'accord.
Voilà. Après, pour le côté vitesse statistique, on est plutôt sur des championnats tels que les Masters de pétanque, qui ont justement des petits algorithmes avec les caméras Superloop qui permettent d'avoir quelques statistiques de tir, de points, de vitesse.
Il y a l'innovation, et puis il y a aussi ce que vous voulez faire pour les enfants. Je voudrais qu'on en dise un mot avant de se quitter, parce que c'est important. Vous voulez qu'on joue à la pétanque, que les petits apprennent à jouer. Vous avez développé des jeux colorés pour eux, de 3
oui,
à 6 ans.
Exactement. On souhaite essayer de passer ce cap du relais générationnel. C'est-à-dire que la pétanque, tout le monde connaît, mais tout le monde n'y joue pas. On a la chance d'avoir une belle notoriété, mais notre image de marque, on doit aussi essayer de capter les jeunes générations, de les connecter du moment de smartphone ou, j'allais dire, de télévision, pour les remettre sur des jeux ludiques, de partager un moment avec ses parents, avec ses grands-parents, entre amis, tout simplement. Et ça, on le fait par des jouets en bois et des jeux pour apporter vraiment un côté ludique de la partie en 13 points qui pourrait être un peu ennuyeuse pour les enfants.
C'est Au But, l'entreprise qui va bien, 18 millions de chiffre d'affaires l'an dernier, 85 personnes dans l'entreprise. Merci d'être venu nous la présenter.
Je vous en prie, merci.
Merci à Laurent Chouin qui était notre coach. Elisabeth Céline, à demain.
À demain.